athlètes, bien sûr, mais aussi à monsieur et madame tout le monde voulant simplement garder la forme, aux personnes un peu plus âgées qui préfèrent marcher devant la résistance du courant, aux gens en réadaptation avec un besoin d'entraînement plus doux pour les articulations, à ceux et celles qui veulent s'entraîner pour perdre du poids, aux mamans voulant retrouver la forme après un accouchement, et bien sûr aux enfants qui pourront y apprendre à nager ou simplement s'amuser dans les vagues pour des heures de plaisir. Même les gens en télétravail pourront faire quelques longueurs sur l'heure du midi. L'hydrofitness vous intéresse, mais vous avez déjà une piscine à la maison? Aucun problème! Que ce soit une trivie ou non, hors terre ou creusée, nos experts peuvent la convertir en piscine hydrofitness en y ajoutant un module de nage maintenant disponible au prix d'introduction de 5 999 $. Et pour vous motiver, Trivie vous propose gratuitement des programmes d'entraînement adaptés et toute une gamme d'accessoires tels que tapis roulant aquatique, vélo aquatique, haltères et bien plus encore. Trévis, plus que jamais, une longueur d'avance.
Quand on pense à une carte CAA, on pense à l'assistance routière.
Oui.
Aux crevaisons.
Effectivement.
Aux rabais sur des cols roulés.
Hein?
À des assurances pour les vols de bijoux et à des rabais sur des phares à joues.
Ben, pas vraiment, mais...
À des rabais sur vos examens d'audition.
Y a-tu vraiment des rabais sur tout ça?
Oui, et sur la location d'outils ou la croisière d'une vie.
C'est assez varié.
Hey, on est là pour vos accidents de char et vos chaussures de sport.
Ouais, ça ratisse large.
On a autant des rabais sur des burgers que sur l'essence.
De tout pour tous les goûts.
C'est ça. Des rabais et des avantages pour le meilleur et pour le pire.
Yeah!
C'est à Québec.
Les manchettes sportives, présentées par BPM Sport.
BPM Sport.
La radio des sports au Québec.
Ah, bon vendredi! Bon début de week-end! Joe dans les sports! On commence en parlant de Cole Caulfield! 50e but, ça s'est fait hier. Et surtout, pendant une victoire 2-1, gros match du Canadien de Montréal, Slav qui en marque un 30e, c'était magique. Un peu moins magique, cependant, les Jays de Toronto. Mauvais début de saison, mais ce soir, on débute une nouvelle série contre les Twins du Minnesota. Tout ça se passe à Toronto. Et bien sûr, nos favoris. On les aime tellement, les Remparts, ce soir. À Chicoutimi, l'autre bord du parc. Le parc est beau. Les Remparts aussi. Bon week-end avec Joe Dan!
Pour plus de sport, c'est BPM Sport.
BPM Sport.
100.9.
Les manchettes sportives présentées par Aluminium Perron. Besoin d'une rampe, d'un mur d'intimité ou d'une clôture de qualité pour votre piscine? Faites confiance à Aluminium Perron. AluminiumPerron.com.
Choix.
Hell yeah!
Choix. 98.
Yeah! 98.
1.
La fameuse.
Radio X. À Québec, c'est Radio X.
Choix. Radio X.
Faites-vous votre propre opinion. Radio X Files
avec Christian Page.
Oh my gosh,
Radio X.
Hi, I'm Bob Lazar. In December of 1988, I was hired as a senior staff physicist by a U.S. defense contractor called EG&G Special Projects. I was told that I would be working on an advanced propulsion system out in a remote area of the Nevada test site, known as Area 51. Wanting to protect myself, I decided to go public and reveal the secrets of S4.
Well, there's actually 9 flying saucers, flying discs, that are out there of extraterrestrial origin.
It was exactly like disarming a bomb every single day. These briefings contained a wide spectrum of information, mostly relating to aliens and alien technology.
The people that have been keeping these secrets for a long time are not going to give this stuff up.
No one has ever been able to show exactly what I saw with my own eyes until now.
Mesdames et messieurs, bon vendredi soir et bienvenue dans les Radio X-Files. Christian Page, bonsoir, bon vendredi. Et
bonsoir, Nick.
L'extrait qu'on vient d'entendre, traite de Bob Lazar. C'est l'histoire qu'on va aborder ce soir dans cette édition des Radio X-Files.
Oui, sujet que j'ai abordé à maintes reprises. Oui. Donc, Bob Lazar. En fait, pourquoi je te parle de Bob Lazar aujourd'hui? C'est une émission qui est consacrée aux ovnis. Et le 3 avril dernier, donc le jour de mon anniversaire, c'était vendredi dernier, est sorti en streaming, si tu me permets, sur le site Prime, le nouveau documentaire qui s'intitule S4, The Bob Lazar Story. Donc, c'est un documentaire qui a été tourné, produit, réalisé par Luigi Vanzitelli, qui est un Montréalais, d'ailleurs, et qui s'intéresse beaucoup à la question des ovnis. Il a été l'ancien, il a représenté au Québec, à un moment donné, l'association MUFON Québec. MUFON, qui est une organisation là, née aux États-Unis à la fin des années 60, qui veut dire Mutual UFO Network, qui un temps a été, je pense que ça demeure encore, la plus grande organisation de recherche sur les ovnis au monde. On parle d'organisation là, civile, hein. ce sont des amateurs, hein. C'est un espèce de club, on a une carte de membre, on est membre du MUFON. C'est vrai qu'au fil des années, en particulier à partir des années 1980, cette organisation qui avait une très, très bonne réputation a commencé à prendre un peu de plomb dans l'aile. Hein. Elle est associée à différents scandales, une histoire d'enlèvement d'extraterrestres au pont de Brooklyn qui était un peu une mystification. Ensuite, il y a eu des photographies qui ont été prises à Gulf Breeze en Floride, dont le MUFON s'est fait un peu le propagandiste de cette histoire-là et qui n'était que des photos truquées. Donc, elle a été associée à des scandales et puis, peu à peu, on a commencé à, comme le dit l'expression, on a commencé à voir le jupon dépassé. Là. En fait, c'est une association qui est pro-OVNI, hein, très croyante sur les OVNI. Et très souvent, ben, même si elle prétendait faire de l'investigation, de recherche sérieuse sur les OVNI, ben, bien souvent, on avait l'impression qu'elle faisait davantage la promotion des OVNI. Et c'est un peu demeuré le cas. Elle a perdu beaucoup d'adeptes, beaucoup d'adhérents. Et aujourd'hui, ça demeure quand même une organisation importante qui a des chapitres dans à peu près tous les États aux États-Unis, dans plusieurs provinces canadiennes et à l'étranger. Donc, c'est une organisation qui regroupe beaucoup d'amateurs qui sous le parapluie, en fait, de MUFON, mènent des investigations sur le terrain. On s'entend bien ici, là. Ce sont des amateurs. Donc, on ne peut pas reprocher à des amateurs de mener une investigation qui peut être moins rigoureuse que celle d'un scientifique qui est, au départ, payé pour le faire. Parce que qu'est-ce qu'il faut reconnaître des amateurs? Il faut quand même le dire. Ce sont des gens qui sont très dédiés. Et ils sont dédiés à une espèce de cause parce qu'ils y croient. Hein? C'est très important. Ce n'est pas une question de valeur ici. Là. On comprend bien, ce sont des gens qui croient en l'existence des ovnis. Et dans bien des cas, quand je dis ovnis, on sous-entend la présence extraterrestre. Et c'est tout à leur honneur parce que s'ils n'y croyaient pas, ben, il irait jouer au golf, tu comprends, un samedi matin, oui. Là. S'il ne s'y croyait pas aux ovnis, il n'irait pas enquêter sur une histoire d'ovnis, là. Il irait jouer au golf. Donc, s'ils sont là, sur le terrain, s'ils enquêtent, s'ils colligent de l'information, rencontrent des témoins, c'est parce qu'ils y croient, ils sont dédiés à une cause. Mais en même temps, c'est un peu le couteau à double tranchant. Là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu es embrigadé dans cette croyance-là, tu perds un peu de ton objectivité. Et c'est souvent ce qui arrive lorsqu'on regarde les investigations qui sont menées par le MUFON ou d'autres organisations civiles. On a bien souvent l'impression que ces gens-là ont manqué de sens critique lorsqu'ils ont mené leur investigation. Dans le cas présent, ce documentaire, donc, comme je l'ai dit, il est produit, réalisé par Luigi Vanzitelli. C'est un type qui croit en l'existence des ovnis, qui croit en leur origine extraterrestre, croit également au folklore qui est associé aux ovnis. Et son documentaire, comme dans bien des cas, c'est un documentaire qui est fait pour les amateurs d'ovnis et qui va dans le sens de la croyance des ovnis. Donc, on peut reprocher au documentaire plusieurs reprises, il faut quand même le dire, de manquer de sens critique. Néanmoins, je ne sais pas si tu connais l'histoire de Bob Lazar.
Écoute, légèrement, mais pas, okay. Pas de fond
écoute,
en compte.
En résumé, si on devait choisir, là, si tu me demandais, là, parmi les 10 personnes qui, au cours des 80 dernières années, ont le plus façonné l'imagerie populaire des ovnis, Bob Lazar est l'un d'entre eux. Donc, son histoire, grosso modo, est la suivante. On est en mai 1989. Il y a une station de télé à Las Vegas qui s'appelle KLAS TV. Et là, il y a une espèce de journaliste vedette qui s'appelle George Knapp. Et ce jour-là, donc George Knapp, on est en mai 1989, rencontre un individu qui souhaite livrer un témoignage à la caméra. Dans le bulletin de nouvelles, en fait, le bulletin de 19h, là, tiens. Mais il ne veut pas le faire à visage découvert, donc on va filmer l'entrevue à contre-jour, pour pas qu'on voit ses traits. Et le type se présente sous le prénom de Dennis, Et là, il raconte une histoire qui est assez incroyable. Il dit que quelques mois plus tôt, en fait, en partir de décembre 1988, il aurait été embauché par une firme, de génie civil et pour travailler sur de la rétro-ingénierie. Donc, la rétro-ingénierie, c'est de prendre un objet, le déconstruire et de voir si on ne peut pas tirer de l'information de cet objet-là pour pouvoir l'adapter à d'autres technologies ou à une technologie domestique. Donc, de la rétro-ingénierie. On fait ça, par exemple, si on met la main sur un avion russe, par exemple, les Américains vont déconstruire le MiG soviétique pour voir comment on pouvait, à quel point la connaissance scientifique dans le domaine de l'aéronautique soviétique était à ce point évoluée pour pouvoir l'adapter sur des avions américains. Donc, on voit un peu le concept. Donc, il est engagé par cette firme, AT&T, et on dit à Lazar qu'il va travailler, il se présente comme un physicien, et il va travailler, donc on va l'envoyer sur une base où il devra travailler sur l'étude de systèmes de propulsion. Donc, ce qu'il raconte à KLAS TV lors de cette entrevue, il dit, ben voilà, cette base en question, c'est une base qui se trouve dans le désert du Nevada, qui aujourd'hui est devenue célèbre, en partie grâce à Bob Lazar, hein, une base qu'on appelle la Zone 51. En fait, c'est une base d'essai et de développement dans le domaine de l'avionique militaire. Il dit, on m'envoie là-bas, et une fois rendu là-bas, on me fait monter dans un autobus. Là, je te résume, là. On me fait monter dans un autobus dont les fenêtres sont aveugles, et on m'amène vers de l'autre côté, il y a une espèce de montagne qui s'appelle Papoose Mountain. Il dit, de l'autre côté de Papoose Mountain, il y a un lac asséché qui a jadis servi à des essais nucléaires. Et sur ce lac asséché, il dit, sur le flanc de la colline, il y a des hangars qui sont là, il y a une base souterraine. Et là, on l'amène dans ces hangars-là et il est confronté donc à des engins d'origine extraterrestre. Il y en a 9. Ce qu'il raconte. Et lui a été attitré à un appareil en particulier, qu'il va d'ailleurs surnommer le Sport Model, le modèle sport. Et il dit, mon travail était de défaire un peu le système de propulsion pour voir comment on pouvait adapter okay. ce système de propulsion. Et puis, bon, suite à une série d'événements, bon, parce qu'il aurait amené des amis dans le désert lors d'un de ses congés, près de la base militaire, mais dans une zone qui était accessible. Hein, il n'a pas franchi un endroit qui était interdit, mais à partir d'une autoroute, ils se sont mis au loin, il a amené des amis pour qu'ils assistent dans la nuit à un vol d'essai d'un de ses engins. Et puis, bon, ils se sont fait surprendre par le bureau du shérif du comté, et quand le nom de Lazar a été vérifié, bien évidemment, les militaires ont été informés, puis bon, il n'a pas été vraiment licencié, mais on n'a plus fait appel à ses services. Et donc, dans cette entrevue, il dit, ben voilà, les Américains sont détenteurs d'au moins 9 engins d'origine extraterrestre, ils travaillent sur le développement en rétro-ingénierie, certains de ces appareils sont tout à fait fonctionnels, lui-même a assisté et a même amené des amis pour qu'ils puissent être témoins des vols d'essai de ces appareils. Il faut quand même le dire, là, lorsque il a amené ses amis dans le désert, la seule chose que ces gens-là ont vu, ou à tout le moins ont pu filmer, c'est une espèce de lumière au loin, là, hein, bon, qui aurait pu être un ovni, oui. Mais qui aurait pu être plein d'autres choses.
Là. Tout à fait.
Mais bref, néanmoins, et on le sait, là, faut pas se le cacher, là, je le dis, je le répète, c'est un centre de développement dans le domaine de l'avionique militaire. Donc, c'est dans cette fameuse base de la zone 51 qu'on a développé, dès les années 50, l'avion espion U-2. Ensuite, on a développé toute la technologie des avions furtifs, là, le F-117 Stealth Fighter, le bombardier B-2, et on a développé également tous les drones qui ont suivi, là, le drone Sentinel, le Raptor, bon, tous ces drones-là ont été développés dans cette base-là. Donc, c'est pas très étonnant que si tu circules près de la base militaire de la zone 51, ben ça se peut que tu vois des choses qui volent dans le ciel. Le contraire serait étonnant, hein, tu comprends? C'est une base où on développe des avions. Tu risques d'en voir. Bon. Mais tu comprends, cette histoire-là, elle est fantastique. Hein, le type raconte ça, bon. Et bon, à ce moment-là, il est connu uniquement sous le nom de Dennis. Et quelques mois plus tard, on avance un peu dans le temps, on est rendu septembre, octobre, il va donner une seconde entrevue, et là, cette fois, il révèle son visage, il s'appelle Robert Scott Lazar, puis bon, et là, c'est son histoire. Donc, c'est une histoire qui est assez incroyable. Donc, il raconte cette histoire-là, ça va faire date, ça met un peu sur la map la fameuse zone 51, même si dans le domaine des spécialistes du domaine de l'aviation. L'endroit était déjà connu. On savait qu'on avait, dans les années 60, on y avait fait de la rétro-ingénierie officiellement sur des avions soviétiques qui étaient tombés au nom des aux mains des Américains. Et là, bon, on se disait, ben voilà, on aurait apparemment des soucoupes volantes. Donc, le documentaire en question nous raconte cette histoire-là de Bob Lazar. Et c'est un beau documentaire. Hein, disons, là, tu sais, je vais essayer de jouer fair play. C'est un documentaire sur le plan esthétique qui est très bien. C'est très, très bien réalisé. Ce qui est bien, c'est que c'est Bob Lazar lui-même qui narre l'histoire. Donc, il raconte son histoire. Donc, et il faut également souligner la qualité des reconstitutions. Le réalisateur a fait de magnifiques reconstitutions et on y croit, là. Tu sais, je veux dire, on suit Bob Lazar lorsqu'il est embauché, puis là, il est amené à la zone 51, il arrive dans les hangars, on voit les disques en question, il travaille dessus, et tout ça avec, en arrière-plan, ce narratif de Bob Lazar. Donc, c'est un beau documentaire sur le plan esthétique, ce sont de très, très belles reconstitutions. Soulignons le fait que Bob Lazar narre le documentaire, ce qui crée une proximité, hein, parce que c'est lui qui raconte sa propre histoire. Et, encore une fois, comme je le dis, hein, c'est une histoire qui est tout à fait fantastique, ce qu'il raconte. Et si on veut croire aux ovnis, ben, c'est un scénario qui est digne d'un film de science-fiction, là, quand on écoute ça. Là où, si on prend du recul et qu'on regarde ça de manière plus posée, comme journaliste, par exemple, un journaliste d'enquête, puis et moi qui connais bien l'histoire de Bob Lazar pour avoir enquêté sur cette histoire-là longuement et avoir même publié, il y a quelques années, j'ai publié un livre qui s'appelle « Les grandes fraudes du paranormal » et l'un des chapitres est consacré à Bob Lazar. Ben, évidemment, il y a toutes sortes de petites choses qu'on nous raconte ou qu'on passe rapidement, on envoie sous le tapis ou on déforme les faits pour ne pas jeter du discrédit sur Bob Lazar. Puis c'est vrai qu'ultimement, quand on écoute ce documentaire-là, et dans toutes les entrevues que j'ai vues, moi, de Bob Lazar, il y a une qualité, cet individu-là, il faut quand même le reconnaître, il est particulièrement convaincant. Il raconte cette histoire-là, il ne sourcille pas, il bégaye pas. Écoute, il te la livre et on y croirait. Il te regarde droit dans les yeux avec un aplomb incroyable quand il raconte cette histoire-là. Et toujours aussi avec cette espèce de... Comment je pourrais t'expliquer? Il raconte l'histoire, il la raconte avec beaucoup d'aplomb, mais toujours avec une espèce de détachement disant « c'est comme ça, puis si tu veux pas y croire, ben, ça me concerne pas ». Tu comprends? Donc, il semble pas avoir, on n'a pas l'impression que c'est un individu qui a pour mission de te convaincre de quelque chose. Il te raconte une histoire et il y a toujours cette espèce d'ambiguïté de dire, ben là, je t'ai raconté cette histoire-là, si tu crois pas, ben ça me concerne pas, voici, bon. Et on le retrouve dans ce documentaire-là, toujours ce même aplomb. Là où on se dit, ben, au-delà de l'histoire que Bob Lazar nous raconte, il y a quand même des éléments qu'on nous montre et sur lesquels on aurait pu insister davantage et que l'on ne fait pas. Et ça, ben, c'est malheureusement là où le documentaire perd tout son intérêt. À partir du moment où on nous raconte soit des faussetés ou des demi-vérités. Et j'en ai choisi quelques-unes pour toi. Là. À 9 minutes 22 secondes du documentaire, on voit George Knapp, le fameux journaliste de KLAS TV, qui dit « Ah, Bob Lazar a dit qu'il avait étudié à la Caltech, au MIT. » Il dit « J'ai vérifié au Caltech, puis à la MIT, ils n'ont aucune preuve qu'il n'a jamais étudié là. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas rien de ça. » Je dis « OK. » Et là, Bob Lazar dit qu'il travaillait au laboratoire de Los Alamos. Et il dit, j'ai vérifié au laboratoire de Los Alamos. Ils m'ont répondu, Bob Lazar n'a jamais travaillé ici, on connaît pas ce gars-là, il sort de nulle part, il n'y a rien du tout. Et là, George Knapp d'ajouter, il dit, là, je suis tombé à un moment donné sur un bottin téléphonique de Los Alamos. Il faut savoir que Los Alamos, c'est un grand laboratoire de recherche là, dans le domaine de l'énergie. Et c'est littéralement une ville. Hein. Pour avoir été à Los Alamos, c'est littéralement une ville. Et là, il dit, j'ai fouillé dans le bottin téléphonique de Los Alamos, puis j'ai trouvé le nom de Bob Lazar. Donc, il dit, j'ai rappelé l'administration, puis eux m'ont dit, ça se peut que son nom soit dans le bottin, mais nous, on n'a aucune information sur ce gars-là. Et on essaie, à partir de là, où il mensonge, George Knapp, au lieu de se dire, c'est quand même curieux que le gars dit, tu sais, objectivement, aux États-Unis, tu ne peux pas être diplômé du MIT ou de la Caltech. C'est l'un ou l'autre. Tu peux pas
être les deux.
Tu peux pas être les deux. Bob Lazar, on ne nous dit pas non plus qu'il est incapable de nommer un seul de ses professeurs. Il aurait apparemment étudié à la Caltech ou MIT, okay, mais incapable de nommer ses professeurs. Et le seul nom, à un moment donné, acculé au pied du mur, où il a accepté de donner un nom, il dit je pense qu'il y avait un professeur à la Caltech qui s'appelait Dudley. On a vérifié. Le professeur Dudley, c'est un professeur, parce qu'on sait que Lazar a suivi des cours en électronique, un peu comme l'équivalent au Québec, là, peut-être ça dit quelque chose, TECAR. Hein, c'est une espèce d'école un peu parallèle où on enseigne l'électronique, oui, oui, et tout ça. Là, qui a beaucoup marqué, là, notamment les années 70 et 80. Donc, on sait que Bob Lazar a suivi un cours dans un institut comme ça, à la sortie du secondaire, parce que sa formation académique, qu'on peut vérifier, il a fait l'école jusqu'au secondaire, et après ça, il s'est inscrit dans un cours en électronique dans un institut privé, là, comme la Caltech. Et quand on a vérifié, le professeur Dudley, qui a mentionné, n'est ni à la Caltech, ni au MIT, il est professeur dans cet institut, cette petite institut d'enseignement électronique, et on sait que Bob Lazar a eu un diplôme de cette compagnie-là. Donc, il est incapable de nommer un seul de ses professeurs. Il est incapable de nommer un seul de ses amis qu'il a côtoyé à l'université et qui pourrait témoigner qu'il était là à l'université. Il est incapable de nommer le nom de la jolie fille qui était la cheerleader de l'équipe de football. Il est incapable de fournir la moindre information à ce niveau-là. Quand on vérifie le fameux bottin téléphonique de l'Institut de Los Alamos, il faut savoir, et encore là, on ne nous le dit pas là-dedans. Donc, on oublie l'histoire de la formation universitaire, et ensuite, quand il arrive au bottin téléphonique, on ne nous dit pas qu'il y a deux... Quand on travaille à Los Alamos, il y a deux possibilités. Ou tu travailles à Los Alamos, ou tu travailles pour Los Alamos. Tu comprends? Donc, quand Knapp s'adresse à Los Alamos, il s'adresse pour savoir qui sont les employés qui travaillent pour le laboratoire de Los Alamos. Bob Lazar n'a jamais travaillé pour le laboratoire de Los Alamos. En fait, ce que l'on découvre, son nom apparaît dans le bottin téléphonique, mais quand on suit son nom, juste aux côtés de son numéro de téléphone, de son poste, il y a une petite notion. C'est comme K qui est au bout du numéro de téléphone. C'est ça KM, qui veut dire Kirkmeyer. Kirkmeyer est un sous-traitant qui avait un bureau à Los Alamos, et ce bureau-là réparait les dosomètres. Comme les gens travaillent sur des accélérateurs de particules puis des réacteurs atomiques, tous les employés ont des petits dosomètres sur eux pour dire s'ils sont exposés à de la radioactivité. Et ces petits dosomètres-là, bien évidemment, il y avait un petit bureau d'électronique qui réparait les dosomètres. Ce bureau-là n'était pas le bureau de Los Alamos. C'était un petit bureau qui était à Los Alamos, mais qui était géré par Kirkmeyer. Bob Lazar, on le sait, a travaillé pour Kirkmeyer. Donc, c'est normal que son numéro... Tu sais, c'est un peu comme tu dis, moi, j'ai une grande compagnie comme... Supposons, par exemple, prenons Radio X.
Oui, oui.
Et Radio X a, par exemple, des gens qui vont faire le ménage à l'entretien.
Oui.
Mais ces gens-là ne sont pas à l'emploi de Radio X. Ils travaillent à Radio X, mais ils appartiennent à une compagnie extérieure qui font de l'entretien ménager. C'est exactement la même situation avec Bob Lazar. Et là, t'écoutes George Knapp qui te raconte ça, et moi, je le sais, là il me ment à tour de bras. Là. Et plutôt que rendu là, tu te dis... Si le gars, il n'est pas diplômé du MIT, si tu trouves aucune trace de lui au MIT, aucune trace de lui à la Caltech, que le seul nom qu'il est capable de te donner, c'est un professeur à la sortie du secondaire, incapable de te donner le nom des amis, rien du tout, tu découvres que dans le bottin téléphonique, il n'est même pas listé comme un employé du laboratoire de Los Alamos, mais d'une firme de sous-traitants qui a un bureau à Los Alamos. Ta première réaction, comme un journaliste d'enquête, c'est de dire « Ce gars-là me compte des blagues.
Ben » oui.
C'est pas ça qu'on fait. On nous dit, c'est parce qu'on veut faire disparaître Bob Lazar. Okay. Il y a tellement de secrets extraordinaires à raconter qu'on essaie d'effacer son passé. C'est drôle. Si on fouille, par exemple, le passé, je sais pas moi, de Oppenheimer, ben, le gars qui a inventé la bombe atomique, il doit en avoir déjà des choses à dire, Oppenheimer. On est capable de suivre tout son cursus universitaire à
son
Oppenheimer.
Parcours, ouais.
Tu sais, tu comprends? Mais il semble que dans l'échelle entre Bob Lazar et Oppenheimer est un cran au-dessus. Mais on n'a pas essayé de faire des faciles sur le passé de Oppenheimer. Mais Bob, on cache son passé.
Ah oui, ben oui.
Ça ne tient pas la route. C'est un mensonge éhonté, ça, de raconter ça. Ça, c'est la pire. Tu dis, bon, donnons une chance au cran. Mais là, ici, c'est clairement qu'on nous ment. Ensuite, quand Bob Lazar, il dit, bon, il raconte son histoire, on voit même sa carte d'identité. Hein, il dit, bon, là, voici ma carte quand je travaillais la zone S4. Cette carte-là porte la mention MAJ pour Magic, et ensuite, je vais revenir sur l'affaire de Magic, donc MAJ pour Magic, elle a un numéro d'employé et elle est délivrée par le Department of US Naval Intelligence. Déjà là, cette carte-là a trois problèmes. D'abord, MAJ pour Magic, ça fait référence à une organisation secrète dans le milieu des ovnis dont on n'a jamais prouvé l'existence. Et d'ailleurs, toutes les enquêtes qui ont été menées prouvent que tout ça a été une pure invention. Ça n'existe pas, cette organisation Magic. Ça existe dans les X-Files. C'est à peu près la seule place où ça existe.
Okay.
Donc, de trouver cette mention-là sur une carte d'identité, c'est quand même assez étonnant. La carte est délivrée par le département US Naval Intelligence. Ce département-là, il n'existe pas. Aux États-Unis, on a un Office of Naval Intelligence, mais on n'a pas un Department of US Naval Intelligence. C'est un département de la guerre, le département de l'énergie, mais le département de l'intelligence ou du renseignement de la Navy américaine, de naval américain, ça n'existe pas. Donc, j'imagine que comme la carte est émise par le gouvernement, ils doivent savoir ce qui existe puis qui n'existe pas. Donc, que cette carte a une erreur aussi grossière que département du US Naval Intelligence, quand cette organisation-là n'existe pas, on a un très sérieux problème. Et le numéro d'employé qui apparaît de Bob Lazar, quand on a vérifié avec le bureau des employés pour les départements du gouvernement qui auraient reçu, hein, on a vérifié avec le bureau du ministère du Revenu, et avec eux autres, tu niaises pas. Et on s'aperçoit que ce numéro d'employé n'existe pas. J'ai une carte, ouais. Trois informations qui sont fausses dessus.
Il y a beaucoup de choses.
On te la montre, ouais. On dit pas un mot, on dit merci, bonsoir. Regarde, cette carte-là, c'est un belge, ça fait bien joli dans un portfolio. Ensuite, on nous parle, et ça c'est le gros élément, dans le cas de Bob Lazar, dans son discours, il a dit, il dit beaucoup de choses, mais une des choses qui ont le plus marqué l'imaginaire, ça a été de dire que les fameuses soucoupes volantes sur lesquelles il a travaillé étaient propulsées par un élément qu'il appelle l'élément 115. Aujourd'hui, on sait que c'est l'unimpantium, mais à l'époque, cet élément-là, ben évidemment, il n'existait pas parce que le tableau périodique s'arrêtait à l'époque à l'élément 112. Alors Bob Lazar dit, voilà, la soucoupe était propulsée par un élément, c'est l'élément 115.
Okay.
Alors là, évidemment, on se dit, comment il peut être propulsé par l'élément 115 alors que le tableau périodique arrête à l'élément 112. Mais aujourd'hui, cet élément-là, il existe. T'sais, on le connaît, cet élément, l'élément 115, on sait qu'il existe. Mais l'élément 115, et c'est ça qui est un petit peu étrange, c'est que d'abord, Bob Lazar ne le mentionne jamais sous son véritable nom. Hein. Il mentionne toujours l'élément 115, c'est simplement ça, l'élément 115. Alors que cet élément-là, ben, c'est l'unimpantium ou le moscovium, il y a deux noms. Là. Mais cet élément-là, il n'est apparu que des années après. Hein, on a des accélérateurs de particules, des trucs comme ça, donc on a réussi à reproduire des éléments. Et dans ces éléments-là, ben, on a vu apparaître l'élément 116, 117, 118, 119. Donc, on a vu des éléments. Donc là, évidemment, les amateurs d'OVNI disent comment Bob Lazar a pu dire que la soucoupe était propulsée par l'élément 115 en 1989, alors que cet élément 115 n'a été finalement officialisé que quelques années après grâce à des accélérateurs de particules. Pouette, pouette, pouette. Ça, c'est de la bullshit. Évidemment, on ne te le dit pas du tout dans le documentaire. On évite de dire ça. Bob Lazar, là, dès le début du documentaire, on te mentionne bien que c'est un véritable geek de la physique, de l'électronique, cette patente-là. C'est un geek. Il lit tous les magazines. Là. Scientific American, Popular Mechanics, il les lit tous, là. La première fois où il parle de l'élément 115, c'est dans une entrevue qu'il donne en novembre 1989. Dans son numéro de mai 1989, donc pratiquement 6 mois plus tôt, numéro d'ailleurs qui est sorti en kiosque en avril 89, le magazine Scientific American disait qu'avec l'avènement des nouveaux accélérateurs de particules, on allait très bientôt produire des éléments lourds et instables, comme les éléments, et tu le devines, 112, 113, oui, oui, 114, oui, oui. 115. Donc, si Bob Lazar a lu le Scientific American, ben, 6 mois plus tard, quand il raconte cette histoire-là, il n'invente rien, là. Il ne fait que mentionner quelque chose qu'il a lu dans un magazine. Et qui plus est, l'élément 115, dont maintenant on connaît, puis il y a un nom, cet élément-là est un élément instable. Donc, c'est pour te donner une idée, c'est un peu comme lorsque deux particules se frappent dans un collisionneur d'atomes ou d'hadrons, là, comme celui qui existe en Suisse, ou l'accélérateur de particules. Lorsque deux particules se frappent pendant un milliardième de seconde, ces particules se mélangent avant de devenir autre chose. Et durant ce milliardième de seconde, elle devient un élément instable. Et ces éléments instables, c'est parmi ces éléments instables, il y a justement l'élément 115. Ça n'existe pas. Tu sais, tu peux pas avoir dans ta main l'élément 115. Tu sais, tu peux, non, dans les autres éléments qui sont dans le tableau périodique, tu peux avoir du chrome dans ta main, tu peux avoir du fer dans ta main, mais tu peux pas avoir du moscovium dans ta main. Ça n'existe pas. Ça existe pendant une fraction de seconde. Donc, quand Bob Lazar dit ça, faut que les gens qui s'intéressent à cette histoire arrêtent de nous dire « Bob a parlé de ça avant tout le monde ». C'est pas vrai. Il y avait déjà des articles qui paraissaient dans la presse des mois avant que Bob Lazar en parle, qui avait déjà évoqué ça. Et Bob Lazar va même plus loin. La description qu'il en fait en 1989 est d'un ridicule absolu. Hein, il sait pas, visiblement, il sait pas de quoi il parle. Il sait pas que c'est un élément instable. Quand il parle de ça, il dit c'est propulsé par l'élément 115. Puis l'élément 115, il le décrit comme étant, il dit ça ressemblait à une chip, à un Doritos. Il dit ça, tu me rentrais le Doritos dans le moteur de la machine, okay. Ça marchait. Bon. Puis il dit, j'en ai volé un je Doritos. Fait que là, tu dis, attends une minute. Pourquoi si t'as l'élément 115, un élément, on aimerait bien ça, voir un élément 115 stable, hein, ça n'existe pas en physique, ça n'existe pas. Mais si Bob Lazar l'a réellement, cet élément 115, il le répète dans le documentaire, hein, il dit, je l'ai volé.
Oui.
Pourquoi qu'on nous le montre pas?
Ouais,
on n'aurait pas besoin de faire un documentaire de 2 heures.
Ça serait réglé. Hein?
C'est réglé, gars, en 2 minutes, gars, le voici, mon élément 115. Merci, Bob, c'est vrai, ça n'existe pas sur Terre, un élément comme ça. Merci, terminé, bonsoir, fermez les caméras, on s'en va. Non, mais non, on nous fait un documentaire qui est d'ailleurs un peu long, hein, quand même, c'est pratiquement 2 heures, c'est 1 minute, 1h54. Tout ça pour nous raconter cette histoire-là, alors que vers la fin, il nous dit, ben, je l'ai, moi, l'élément 115, il est dans le fond de mon tiroir, là, tu sais, là, voilà. Puis il nous le montre pas. Il nous le montre pas. Tu dis là, c'est quand même un peu niaiseux. Mmh. Tu sais, là. Puis le dans le documentaire, évidemment, on passe assez rapidement là-dessus. Le Bob, évidemment, quand il nous parle de ça, il nous montre une réplique de la chip Doritos. Pourquoi pas nous montrer l'original, puisqu'il l'a quelque part dans un hangar ou caché dans son bas de laine. Non, il nous montre une réplique de la fameuse chip Doritos. Et là, il nous raconte une espèce de charabia pseudo-scientifique autour de ça. Tu dis, bon, là, pendant 6 minutes, là, t'as pratiquement envie de t'endormir. Ensuite, il te raconte son histoire de soucoupe et tout ça. Là, toutes les choses qu'on aurait dû nous dire et qu'on nous dit pas, par exemple, quand il nous décrit sa soucoupe volante, là, il dit, il y a comme des panneaux noirs sur le dessus. Sa soucoupe volante, là, elle est... C'est pas, n'importe qui nous écoute peut faire cet exercice-là. Là. Allez taper sur votre moteur de recherche soucoupe volante Billy Meyer. Billy Meyer est un Suisse qui se disait en contact avec des extraterrestres pléadiens dans les années 70. Et quand vous allez voir sa soucoupe volante, c'est la réplique exacte de la soucoupe de Bob Lazar. C'est là qu'il l'a prise, sa soucoupe volante. Il l'a pas vu dans un hangar caché quelque part dans une zone mystérieuse. Il a simplement ouvert un livre, ses ovnis, puis il a vu une photo de la soucoupe de Billy Meyer, puis il s'en est inspiré. Ensuite, il dit, quand je suis dans la base de la zone 51, ils ont montré des documents comme de quoi ces extraterrestres-là viendraient de Zeta du Reticuli. Là, encore une fois, le documentaire manque une belle occasion de nous dire que l'histoire de Zeta Reticuli, encore une fois, Bob l'a simplement pigé dans la littérature sur les ovnis. En 1961, il y a un couple américain qui s'est dit avoir été enlevé dans les montagnes du New Hampshire par des extraterrestres, et les extraterrestres leur auraient fait savoir qu'il venait de l'étoile Zeta du Reticuli en faisant une espèce de dessin d'une carte spatiale. On sait aujourd'hui que Zeta du Reticuli, hein, c'est une étoile double, Zeta 1 et Zeta 2. Je n'entrerai pas dans les détails, là, mais ces étoiles-là, à cause de ce qu'on, dans le domaine de l'astrophysique, on appelle la métallicité de l'étoile, ces étoiles-là ne peuvent pas avoir des planètes telluriques autour d'elles, comme la Terre ou Mars ou autre. Les planètes qui, si le système de Zeta du Reticuli a des planètes qui gravitent autour, ça ne peut être que de géantes gazeuses comme Jupiter ou Saturne. Impossible qu'il y ait des civilisations qui vivent là. Encore une fois, Bob Lazar ne fait que du plagiat ici.
Oui.
Et ensuite, bon, écoute, je sais combien de temps il nous reste pour cette première partie-là.
On est déjà. On a déjà bien défoncé, là, mais.
On a déjà bien défoncé.
Oui.
Écoute, on va prendre une pause. C'est trop bon. On prend une pause, puis je te reviens avec, puis on continue
parfait.
Avec ça.
Bougez pas, vous êtes dans les Radio X-Files sur les ondes de choix 98 ans Radio X.
Radio X-Files.
Avec Christian Page.
Radio X. Le show du matin.
Weekend.
C'est aphrodisiaque pour moi.
Avec Carbo.
Ça n'a pas de bon sens.
Samedi et dimanche, 6h.
Radio X.
Présenté par Silencieux Proto. Votre voiture fait du bruit? Silencieux Proto évalue votre véhicule sans frais, répare et fabrique vos systèmes d'échappement sans rendez-vous. Silencieux Proto à Québec et Lévis.
Marie-Lou, j'ai vu que pendant l'événement Avantage Hyundai, le Tucson Preferred 2026 Attraction Intégrale est en location à partir de 99 $ par semaine.
Oui, avec 0 $ d'acompte.
Avec 0 $ d'acompte?
Oui.
0 $?
Oui, zéro. Puis zéro stress avec le Tucson et sa garantie limitée sur les véhicules neufs de 5 ans.
0 $ d'acompte, 99 $ par semaine, garantie de 5 ans. Puis c'est pas une erreur?
Non, fait que moi, j'attendrai pas avant d'aller visiter un concessionnaire Hyundai. Location 60 mois au taux de 4,49 %. Des conditions s'appliquent. Visitez Hyundai Canada pour les détails.
Vos rôtisseries Saint-Hubert vous offre sa promo « Casse-toi pas le poulet ». Une cuisse ou une poitrine au choix du rôtisseur avec les accompagnements à 10,95 $ au comptoir et au service à l'auto.
Chez La Tulipe, je fais ce que j'aime. Je profite d'une quantité incroyable de produits soldés. Je découvre une foule de nouveautés partout. Et grâce à mes achats de pêche, mon permis provincial est gratuit. Tout ça en magasin et en ligne chez La Tulipe.
La puissance inégalée du GMC Sierra, vous la connaissez déjà. Sa capacité de remorquage, sa durabilité légendaire aussi. Mais saviez-vous que pendant le mois du camion, c'est le meilleur moment pour vous procurer un Sierra?
Ben maintenant, vous le savez.
Profitez du mois du camion pour louer le Sierra 1500 Pro Graphite 2026 pour l'équivalent de 158 $ par semaine pendant 27 mois. Valeur au détail de 71 735 $, versement initial de 4 699 $, 58 paiements aux deux semaines de 316 $ et 20 sous du kilomètre après 16 000 km. Détails sur gmccanada.ca.
Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jeu de table en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance. Ou jouez à la roulette, au blackjack et bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
Vous rêvez d'une piscine pour pleinement profiter de l'été? Ce samedi et dimanche, Le Piscine vous attend pour son week-end en folie. À l'achat d'une piscine hors terre admissible, économisez 1100 $ en plus de recevoir en cadeau un système au sel et une chute d'eau d'ambiance. Le tout d'une valeur de plus de 2500 $. Et avec notre concours 35e anniversaire, deux clients chanceux gagneront leur achat d'une piscine équipée, livrée et installée. Prête pour les vacances. Le plus gros événement piscine de l'année, c'est pour deux jours seulement chez Club Piscine Québec, Sainte-Foy et Lévis.
C'est le printemps gagnant avec Michelin. Jusqu'au 29 mai, recevez 100 $ en carte prépayée Michelin Mastercard MD à l'achat de 4 pneus neufs Michelin Tourisme ou Camionnette et profitez de la garantie. Passez chez Letourneau Service de pneus. Des conditions s'appliquent. Visitez Michelin.ca.
Salut, moi c'est Paul pour une job de Mike.
OK, Paul, on va tester si vous avez l'oreille d'un pro.
OK.
C'est quoi ce bruit-là?
Ah oui, Boom Truck 2025, 7 vitesses qui livre du gyps.
Embauché!
Paul chez Rona!
Mike ou pas, postulez chez Rona.
Ça serait Thibault une job payante. Que tu sois débutant ou compagnon expérimenté, on a de la job pour toi à l'année. Une ambiance exceptionnelle, applique chez Thibault Électrique. 418-847-3243.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contact. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com, courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Avoir encore l'étiquette du magasin sur ton chandail, ça peut être gênant. Mais avoir encore l'étiquette rouge sur ta nouvelle Prius de chez Sainte-Foy Toyota, il y a de quoi être fier.
Pendant la vente étiquette rouge de Toyota, louez le Prius hybride branchable SE 2026 à partir de 79 $ par semaine pour 48 mois. Un taux de 4,99%, 16 000 km par année avec acompte de 5 100 $. Rabais gouvernementaux et incitatifs de 8 000 $ inclus.
5 fois Toyota. Une affaire de confiance.
En avril, ne te découvre pas d'un fil, mais chez vous, avec une thermopompe Daikin, pas de surprise. Froid, ça chauffe. Trop chaud, ça rafraîchit. Et entre les deux, elle garde votre maison exactement comme vous l'aimez.
Ce printemps, oubliez les couches de vêtements et profitez d'un confort constant. Multi-Confort FP vous offre des thermopompes Daikin qui vous gardent confortable. Obtenez 15% de rabais sur toutes les installations et 6 mois sans paiement ni intérêt sur certains produits. Multi-Confort.
Québec et Victoriaville.
C'est la foire du casque chez ADM Sport. Jusqu'à lundi, profitez de rabais allant jusqu'à 65% sur un vaste choix de casques moto et motoneige des plus grandes marques. ADM Sport, c'est tout ce que tu aimes. En ligne à Québec et à Lévis.
Cette semaine chez Maxi, on valse avec la danse 1, 2, 3 $. Les fraises à 2 $, la douzaine de gros œufs à 3 $, le bœuf haché à 4,95 $ la livre, 10,91 $ le kilo. Plus de détails en circulaire et chez Maxi.
Si vous voulez un tracteur compact haut de gamme alliant puissance, performance et un confort optimal pour l'opérateur, choisissez le tracteur L60 de Kubota. Économisez jusqu'à 7 000 $ en achetant comptant. Visitez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails.
Gestion Lac Auto est aussi spécialiste en financement d'auto et de crédit spécialisé. Peu importe ton statut, avec notre approche humaine, nous avons une solution. Pour en savoir plus, va sur gestionlacauto.com.
Ray, The Sports, dans Morey Live. Et Will est en direct. Ray, The Sports.
Radio X.
Présenté par Unicanva.
Chez nous, vous aurez une variété de produits hors du commun. Toit rigide en acrylique, verrière, auvent rétractable ou mur sur rouleau. Unicanva avec un S.com.
This is not a test. Radio X. Files.
Avec Christian Page.
Radio X.
On est de retour dans les Radio X-Files sur les ondes de choix 98 Radio X. Juste avant la pause, on était dans l'histoire de Bob Lazar et on poursuit, oui. Christian, parce que, bon, je te laisse aller. Je veux pas qu'on manque de temps pour toute cette, oui. cette aventure-là.
Ouais, à propos de ce nouveau documentaire, oui, là, S4, oui. de Bob Lazar Story, il y a des belles occasions qui sont ratées. Le documentaire, je le dis, là, il est esthétiquement, il est très beau, c'est intéressant, on peut suivre Bob Lazar. Mais sur le plan journalistique, il y a de belles occasions qui sont ratées. À un moment donné, Bob Lazar raconte, il dit « Ah, quand j'ai quitté cette base-là, on a essayé de me faire taire. » Fait que des gens, à un moment donné, une voiture est arrivée à la hauteur de ma voiture, puis on a tiré dans les pneus. Hein? Puis à un autre moment donné, quelqu'un est rentré dans ma maison, il l'a vandalisé. Et moi, je regarde ça, je dis, OK, et où sont les rapports de police? Tu comprends? Une belle occasion. Ben je dis, oui. OK, mais si toi, tu t'en vas sur l'autoroute, puis des gens tirent dans tes pneus, probablement que tu vas appeler la police. Il y a des gens chez vous, puis tu t'aperçois qu'on a dévalisé ta maison, puis qu'on l'a saccagé. Tu vas au moins appeler la police, sinon ton assurance. Encore là, belle occasion. Il raconte ça, mais on n'a pas d'élément qui va vers ça. Ensuite de ça, il dit... un coup qu'il a raconté tout ça, évidemment, il est toujours appuyé par George Knapp, ce fameux journaliste qui l'a mis un peu sur la map. Et là, George Knapp, bon, apparaît plusieurs reprises dans le documentaire, et c'est à George Knapp que revient la panne du mensonge. C'est quand même étonnant parce que George Knapp est un individu qui a gagné beaucoup de prix, c'est un bon journaliste d'enquête. Mais quand il vient le temps de parler des ovnis, puis on le voit là au cours des dernières années, il a même été témoigné au Congrès américain sur l'histoire des ovnis. Quand il est question d'ovnis là, il perd tout sens critique. Il croit à fond là-dedans, les gens lui racontent des histoires, il ne fait preuve d'aucun sens critique et il déforme la vérité. Et à 1h45 du documentaire, donc on est 10 minutes avant la fin, George Knapp arrive avec ses gros sabots et là, il nous sort 3 énormes mensonges. Le premier mensonge qu'il nous dit, comment Bob aurait pu savoir qu'à la base de la base militaire de la fameuse base de la zone 51, oui. qu'il y avait un secteur qu'on appelait le secteur S4. Parce que Bob dit bien, je ne travaillais pas à la base même de la zone 51, mais dans une espèce d'installation militaire de l'autre côté de la montagne appelée Escarpe. Et là, George Knapp dit, et comment il aurait pu savoir ça? Moi, j'ai vérifié avec les militaires, puis à un moment donné, ils m'ont confirmé que Escarpe existait pour me dire après ça que ça n'existait plus. OK? Et on peut-tu entendre cette conversation-là avec les militaires qui t'ont dit que la zone Escarpe existait? Pas du tout. Donc, là, ce n'est plus... Là, si je crois pas à Bob Lazar, je suis obligé de croire George Knapp, parce que moi, Christian Page, j'ai vérifié et je n'ai trouvé aucune confirmation d'aucune sorte qu'il existe à la base de la zone, à la base de Groom Lake, qu'il existe un secteur appelé S4. Si George Knapp a réussi à se faire confirmer que ce secteur S4 existait, ben, faudrait qu'il le montre. Mais c'est pas ça. Il dit, j'ai vérifié ça, puis ils m'ont dit que c'était vrai, ça existait, donc Bob doit dire la vérité. OK, c'est correct. Ensuite, il nous revient sur l'affaire de l'élément 115. C'est quand même étonnant qu'un journaliste d'enquête soit pas conscient que cette histoire d'élément 115 circulait déjà dans la littérature scientifique dans le domaine de la physique des mois avant que Bob Lazar en parle. Là, il est en train de nous entuber quand il raconte ça. Et ensuite, il nous raconte une absurdité. Au moins, il était un peu plus décent cette fois-là. Bob Lazar disait que lorsqu'il travaillait à la base de la zone 51, ou S4, il dit, on entrait dans l'hangar et il y avait un mécanisme d'identification qui était un appareil sur lequel tu mettais ta main et ça mesurait la longueur de tes doigts. Et dans un précédent documentaire, pas celui-là, mais un précédent documentaire qui date de 2 ou 3 ans, qui a été réalisé par un certain Jeremy Corbell, qui s'intitulait Bob Lazar, Area 51 and Flying Saucer, ou un truc comme ça. Ce fameux Jeremy Corbell, dans ce documentaire, qui date de 2 ou 3 ans, arrive devant Bob Lazar et il lui montre des photographies en disant « Hey, j'ai des photos d'un appareil qui mesure la longueur des doigts, un système de sécurité dont on m'a envoyé des photos. » Et il dit « Ça ressemble à ce que tu décrivais. » Et là, il les montre à Bob Lazar. Et Bob Lazar, qui est un extraordinaire acteur, là, à côté de lui, je pense que même Robert De Niro devrait faiblir.
Ça mérite des Oscars.
Là, il se montre tout enthousiaste. « Ah, c'est exactement la machine que je parlais. Tabarnouche! J'aurais jamais pensé que j'aurais vu ça. » Puis là, Jeremy Corbell, qui est un parfait pour nous entuber, nous dit « Ah, ça, c'était des systèmes top secrets. J'ai obtenu ces images-là de manière extraordinaire. » Puis là, évidemment, dans le documentaire dont on parle, S4, bien évidemment, George Knapp revient avec cette histoire-là. Comment Bob Lazar aurait pu savoir qu'il y avait une zone qui s'appelait S4? Dont on ne prouve pas que quelqu'un le savait. Et ensuite, l'élément 115 dont la littérature scientifique parlait. Et là, il nous revient avec l'histoire de cette identification, là, l'appareil à main. Arrête, là. Cet appareil-là, à partir du moment où Jeremy Corbell a montré ça dans son documentaire, il y a plein de gens qui ont fait des recherches aux États-Unis en se disant « Hey, je l'ai déjà vu, cette machine-là, moi. » En fait, dans les années 70, 10 ans avant que Bob Lazar parle de ça, cette machine-là était dans toutes les banques, tous les hôpitaux, tous les centres de recherche. On en voit une, d'ailleurs, dans le film « Rencontre du troisième type », qui, faut-il te le rappeler, remonte à 1977. Donc, on est 10 ans avant, en fait, on est 12 ans avant Bob Lazar. Dans une séquence du film, tu vois un type qui rentre d'un laboratoire, puis tu la vois la machine en question, ça s'appelle un Identimat 2000, il sac la main dessus puis il rentre dans le laboratoire. C'était une machine qui était excessivement répandue et qui plus est, elle était en fonction au laboratoire de Los Alamos où on sait que Bob Lazar a travaillé comme sous-traitant. Donc quand Bob raconte cette histoire-là de la machine qui t'identifie à longueur de tes doigts, cette machine-là, ça a été l'enceinte des appareils, des scanners pour rétiniens ou l'empreinte digitale. Arrêtez, là. Je vais avoir des coliques, là. Il faut arrêter de faire ça. Et George Knapp nous entube poliment avec ça. Sauf qu'il a au moins la décence de ne pas nous sortir que personne n'avait jamais vu ça avant. Il nous dit, comment Bob aurait pu savoir qu'il y avait des machines comme celle-là à la base de la zone 51 s'il n'y a jamais été? Ben parce que des machines comme ça, il y en avait partout. Dans tous les centres de recherche, dans les laboratoires de biomédical, les laboratoires comme celui de Los Alamos ou dans des centres militaires ou même dans certaines banques particulières, on l'avait, ce système-là. Il y a plein d'articles qui étaient parus dans la presse qui montraient cette machine-là qu'on mettait de plus en plus en place dans des centres parce qu'on disait que c'était l'avenir de la sécurité dorénavant d'avoir des machines comme celle-là. Donc arrêtez, là. Tu vois, c'est toutes ces demi-vérités où on est passé complètement à côté. côté d'un bon documentaire où on aurait pu dire, oh, attends une minute, là, il y a peut-être des choses qui sont dites qui sont pas tout à fait ça. Et je dirais que la crème sur le gâteau, c'est... Écoute, c'est tellement ridicule que là, quand tu dis c'est risible, là. Le type arrive, puis quand on regarde, parce que Bob Lazar dit, bon, je travaillais à S4, c'est des hangars qui sont dans la montagne. La première chose que tu dois te poser comme question, c'est de dire, à quoi ça peut bien servir des hangars cachés dans une montagne? Aux États-Unis, on a effectivement des bases militaires avec plusieurs étages souterraines. On a une base qui est entièrement Cheyenne Mountain, qui est entièrement dans une montagne parce qu'elle doit résister à une attaque nucléaire. C'est le centre de contrôle militaire advenant une explosion nucléaire. Mais une base, pourquoi cacher des hangars? C'est pas l'hangar qui est important. Le hangar n'est pas extraterrestre, c'est ce qui est dedans. Donc, pourquoi se donner la peine de construire des hangars dans une montagne quand un hangar bien ordinaire ferait la job? Tu comprends? C'est ce qui est dans le hangar. Là, ça a comme pas de sens. Qui plus est, pourquoi les militaires auraient construit une espèce de hangar de l'autre côté de Papoose Mountain où il y a encore de la radioactivité due aux explosions nucléaires? Donc, s'il exposé pendant une longue période de temps pour être nocif pour la santé. Pourquoi se donner la peine de faire ça quand ils pourraient construire un ou deux hangars souterrains en dessous de la base militaire qui existe déjà à Groom Lake? Tu dis là, il y a comme quelque chose que je comprends pas trop. En fait, c'est simple. Quand Bob Lazar raconte son histoire en 89, on n'a aucune photo de cet endroit-là. Les seules photos qu'on a, c'est une photo qui avait été prise par un satellite soviétique qui montrait la base de Groom Lake, mais on voyait pas de l'autre côté le fameux Papoose Mountain et Papoose Lake. Là, on voyait pas de ce côté-là. Donc, tu connais l'expression « à beau mentir qui vient de loin ».
Absolument.
Donc, Lazar, quand tu nous racontes ça en 89, personne ne peut vérifier si c'est vrai. Il y a des hangars cachés dans la montagne. Mais aujourd'hui, il y a plein de compagnies qui ont leur propre satellite. Google, par exemple, Google Earth, Google Maps. On peut avoir accès à cette partie-là de la région. Et quand on focalise là-dessus, ce que l'on découvre, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de route, il n'y a rien, là. T'sais? Mais là, écoute, dans le documentaire, ça, c'est vraiment... Là, tu dis, écoute, là, arrêtez, là. Le type zoom, puis zoom, puis zoom, jusqu'au point de nous montrer que, justement, sur le bord de Papoose Mountain, il y a des traces de pneus. Puis là, il nous dit, ah, ça nous prouve qu'il y a des véhicules qui passent là. Donc, Bob dit vrai. Attends une minute, là. 20 ans de circulation, c'est pas des traces de pneus dans le sable que tu verrais, c'est une route que tu verrais. Et la route, il n'y en a pas. Et en fait, il y a deux routes qui mènent dans le secteur, et c'est là qu'on nous déforme la réalité. On nous montre des traces de pneus qui apparaissent sur le bord de Papoose Mountain, qui sont sur le bord de Papoose Lake, qui sont à 1 kilomètre au nord. Et en fait, c'est cet endroit-là. En fait, il y a des gens qui viennent de la base de la zone 51 qui circulent. Hein. Ça ne veut pas dire le fait qu'il n'y a pas de route, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas circuler. Mais les gens qui circulent avec une Jeep, ils traversent Papoose Mountain parce que, et ça, on ne te le dit pas dans le documentaire, parce que de l'autre côté, sur la rive ouest de Papoose Mountain, de Papoose Lake, de l'autre côté, sur la rive ouest, un peu plus loin, il y a le centre de développement, le centre d'essai nucléaire qui est là. Donc, il est normal que de temps à autre, et c'est ce qui explique que tu trouves des traces de pneus, que tu as des traces de pneus qui vont de la base de Groom Lake et qui s'en vont du côté ouest de Papoose Lake. C'est des traces de pneus dans le sable. C'est pas une route. Si on avait eu 25 ans de circulation d'un autobus, on verrait une route. Il n'y en a pas de route. Et ensuite de ça, ce qu'on ne nous dit pas non plus dans le documentaire, on nous montre des gros zooms sur la carte en question. Mais on ne nous montre pas que ces traces-là, aucune d'elles ne va à l'endroit où Bob Lazar dit que se trouvent les fameux hangars. Elles sont sur le côté du lac ou au sud de la montagne parce qu'elles se dirigent vers le côté ouest du lac de Papoose Mountain. Alors là, c'est de déformer la vérité pour m'essayer de me vendre des salades parce que si on zoome exactement à l'endroit où on est supposé avoir les fameux hangars, on ne voit aucune trace de pneus qui vont là. Il n'y a rien qui va là. Donc, à moins qu'on ait débarqué, tu t'imagines, on amène les gars dans le désert, ben ils disent, au cas où il y a un Christian Appert un peu futé qui regarde ça, là, on va vous débarquer les boys 1 kilomètre au nord, vous marcherez. Vous marcherez de là jusqu'à votre hangar secret. Comme ça va rester tape secret.
Tout à fait.
C'est d'une absurdité, là. Ça, c'est risible. Mais c'est du grand n'importe quoi, ça. Et c'est triste parce que... documentaire, il y avait de la qualité là, sur le plan esthétique, tout ça. Puis je pense qu'on a eu des belles occasions ratées de dire, attends une minute, là, on va quand même confronter un peu d'esprit critique là-dedans. L'esprit critique là-dedans, il ne s'est pas présenté. Là. Il est out of the game. Et ben, comme on dit souvent, c'est un documentaire fait par quelqu'un qui croit aux ovnis et son objectif, ben, c'est de s'adresser à des gens qui croient aux ovnis. Donc, il n'y a pas place à l'esprit critique. Puis évidemment, à plusieurs reprises durant le documentaire, on voit George Knapp, Bob Lazar et d'autres qui répètent, bah, c'est l'histoire de Bob, puis si vous y croyez pas, ben, libre à vous de pas y croire. Donc, avec cette espèce de nonchalance, on essaie de pas mettre de pression sur le téléspectateur. Mais en réalité, je veux dire, poser les questions s'ils répondent, tu sais, ils posent la question, mais en même temps, ils répondent déjà à la question, fait que t'as même pas besoin de te questionner toi-même.
Ah, quelle histoire!
Voilà, c'était mon commentaire sur S4 de Bob Lazar Story.
Et ça aura fait l'émission au complet, même s'il y avait trois autres sujets, mais c'était fort intéressant.
mais honnêtement, j'aime pas beaucoup Bob Lazar, parce que pour moi, c'est un fumiste de la pire espèce. Mais bon, et quand j'en parle, ben, je ris difficilement à me contrôler.
Christian, ça a été encore une fois un réel plaisir. Je te souhaite à toi ainsi qu'à tous les auditeurs un super beau week-end.
Ça me fait plaisir. Donc, on se retrouve la semaine prochaine.
Pareillement. Donc, c'était les radios X-Files sur les ondes de choix 98 Radio X. Au retour, c'est la Sexploratrice.
Radio X-Files.
Avec Christian Page.
Radio X. Le retour de Radio X.
Parce que je suis tombée sur un article, c'est guide pour voyager sans téléphone. Et là, je me disais...
Ça, c'est vraiment cave. Il arrive de quoi?
Mais dans le temps, vous n'aviez pas, puis vous vous arrangez pareil.
Oui, mais dans le temps, on veut toujours venir là. Dans le temps, il n'y avait pas de char, il n'y avait pas de char électrique, il n'y avait pas de ça.
Quelque chose de le fun,
pas besoin de revenir en 1800.
Mais pas qu'il y a une urgence. La première chose qu'il va dire, c'est que tu n'as pas de téléphone. On aurait dû emmener le téléphone.
Le retour de Radio X.
Lundi au vendredi, 15h.
Radio X. Présenté par Honda Donnacona et par le nouveau Ford Donnacona. On dépasse vos attentes avec 18 000 $ de rabais sur le Honda Prologue 100% électrique et avec des F-150 et des Broncos à prix d'amis. Ouvert le samedi.
À Québec, un Ford, ça se penchait déjà.
On est en direct de Desjardins Ford. Venez faire votre tour. C'est le moment de profiter d'économies majeures. Pour les tripeux de puissance, on a le F-150 en stock et le STX 2026 est offert en location 36 mois pour 119 $ par semaine avec un léger comptant. Obtenez 4000 $ de rabais sur les Super Duty F-250 et F-450. Chez Desjardins Ford, 175 rue du Marais.
Pour une coupe de cheveux ou une taille de barbe, la référence sur la Rive-Sud, c'est Fauve Barbershop. Réserve rapidement, nos disponibilités partent comme des petits pains chauds. Arrête de niaiser, puis prends ton rendez-vous en ligne pour devenir la meilleure version de toi-même. À Saint-Nicolas, fauvebarbershop.com.
Quand on a envie d'une bonne bouffe à partager, la pizza, c'est toujours une bonne idée. Et ça tombe bien parce que Pizza Hut est maintenant ouvert partout dans la ville de Québec avec des offres exceptionnelles pour nourrir votre fun. Commandez sur pizzahut.ca dès aujourd'hui.
As-tu barré la porte?
Ben oui.
As-tu fermé la porte du garage?
Oui, madame.
As-tu installé des capteurs pour fenêtres, des détecteurs de fumée puis des caméras à résolution HD avec vision nocturne? Puis as-tu prévu des alertes d'activité de carte de crédit, un service complet d'assistance en cas de vol d'identité puis une surveillance du web clandestin pour les menaces en ligne?
Répète donc ça, voir.
Offrez-vous la tranquillité d'esprit. Découvrez comment TELUS peut vous protéger des menaces à domicile et en ligne à telus.com/sécurité. Des conditions s'appliquent.
Vous faites partie de ceux qui prévoient faire des rénos du printemps qui incluent un foyer? Alors c'est le temps de se dégourdir parce que le calendrier se remplit vite chez Nauréa Foyer Napère. Saviez-vous que les poêles et foyers sont plus modernes que jamais? Ils sont même rendus intelligents, comme le Aduro qui chauffe au bois et au granule. Quand il n'y a plus de bois, il transfère au granule, tout seul. Et il y a la cuisinière au bois Osburn qui comprend même le four à pizza, comme dans le temps, mais à la fine pointe. Allez voir les dernières nouveautés Osburn chez Nauréa Foyer Napère à Sainte-Marie et Nauréa Foyer Napère Signature à Québec.
Cette semaine chez Maxi, on valse avec la danse 1, 2, 3 $. Les fraises à 2 $, la douzaine de gros œufs à 3 $, le bœuf haché à 4,95 $ la livre, 10,91 $ le kilo. Plus de détails en circulaire et chez Maxi.
Le plein air vous appelle. Jusqu'au 29 mai, recevez jusqu'à 100 $ en carte prépayée BF Goodrich Mastercard MD à l'achat de 4 pneus neufs BF Goodrich Tourisme ou camionnette. Trouvez-les chez Les Tourneaux Service de pneus. Des conditions s'appliquent. Consultez bfgoodrich.ca.
Vous pensiez que la haute technologie était réservée aux modèles de luxe? Détrompez-vous. Avec le Hyundai Tucson Preferred 2026, l'innovation, c'est la norme, pas l'exception. traction intégrale, écran 12 pouces, clé numérique sur votre téléphone, assistance dans les angles morts et bien plus pour 99 $ en location 60 mois avec zéro comptant pendant l'événement Avantage Hyundai. Ici, la technologie n'est plus une option, c'est une expérience. Venez vivre l'expérience Sainte-Foy Hyundai.
Saviez-vous qu'il existe de nombreux crédits d'impôt auxquels vous pourriez avoir droit? Pour savoir lesquels, c'est simple. Consultez lejustepourtous.ca. Tous les crédits d'impôt disponibles sont là. Ainsi que vous soyez parent, aîné ou encore proche aidant, étudiant ou travailleur autonome, vous pourrez facilement identifier les crédits d'impôt qui vous concernent. Assurez-vous d'en bénéficier. Rendez-nous visite au justepourtous.ca. Un message de Revenu Québec.
Le printemps est enfin arrivé, c'est le moment parfait pour transformer votre maison. Chez Caron et Gué, on fabrique ici des portes et fenêtres pensées pour notre climat et pour votre confort. Envie de plus de lumière naturelle, de baisser votre facture d'hydro ou simplement d'un nouveau look? Profitez du retour du beau temps pour passer à l'action avec Caron et Gué. Nos équipes sont prêtes à vous accompagner dans vos projets. Caron et Gué, qualité et performance depuis 1957. caronetgué.com. Cet été, pour tes travaux de clôture, fais appel aux meilleurs. Clôture Terrien. Avec plus de 15 ans d'expérience, ils savent exactement comment livrer un résultat solide et durable, que ce soit pour du composite, de l'aluminium, du verre trempé ou de la